Bonsoir Jean-Marie. Est-ce que tu pourrais nous expliquer quelque chose que j'arrive pas à comprendre vraiment? On nous dit que en 73, quand Giscard a démonté le fait que c'est la Banque centrale qui pouvait prêter aux États, et donc il a été obligé, paraît-il, de faire appel à des institutions financières parce que la Banque centrale ne pouvait pas, à elle, toute seule, financer l'État. C'est pour ça, d'après ce qu'il dit, qu'il a décidé que les institutions financières pouvaient aider la Banque centrale à aider l'État à se financer. Alors, est-ce que c'est vrai ou pas? Est-ce que c'est juste à cause de ça ou c'est juste le fait que les institutions financières commençaient déjà à appuyer le fait qu'elles voulaient un part du gâteau?
On prend plusieurs questions et tu réponds.
Quand on entend mon cours ce matin sur France Inter, alors lui, 180 degrés, complet, il ne répond pas sur ce que contient le traité, mais il dit, le traité, si, il y a eu des choses de changer, la croissance, alors qu'est-ce qu'on peut en penser de ce fameux volet croissance qui n'est pas dans le traité? Il a dit ensuite, la Banque centrale va pouvoir racheter les dettes, on a entendu ce qu'on pouvait en penser, et troisièmement, la Banque centrale va pouvoir surveiller les banques, il a même utilisé d'autres termes, cette venelle, vraiment la super banque par rapport à toutes les banques, qu'est-ce qu'on peut en penser? Puisque ça va être visiblement des arguments utilisés par le gouvernement dans cette période.
Juste une question, tu as abordé un petit peu le problème des collectivités, mais justement Mediapart a fait part d'un texte qui viendrait se rajouter au pacte budgétaire, dont personne ne demandait qu'il existe. Alors ma question, c'est de savoir si ce pacte budgétaire s'appliquait un peu, si on descendait plus bas au niveau des collectivités, comment s'appliquerait ce 0,5? Qu'est-ce qui serait structurel ou conjoncturel? Comment on contrôlerait ceci? On sait qu'il y a une commission des sages, dont je ne connais plus le nom, qui a été mise en place, mais comment on pourrait aller plus loin et pourquoi le gouvernement français va plus loin sur la question des budgets public.
Oui, il y a une des lignes dans les premières diapos que tu as peu commenté sur dans le pacte, l'obligation de soumission du budget national à l'Union européenne, si tu pouvais nous en dire plus. Merci.
J'ai oublié, merci.
Oui, si on est dans une période de baisse du taux de profit important, il y a une solution du point de vue du capital comme après la guerre, il y avait la reconstruction qui a permis en très gros la remontée du taux de profit. Ensuite, il y a eu, dans la période des années 80, l'ouverture de nouveaux marchés, la Chine, etc. Comme il n'y a plus de nouveaux marchés sur la Terre, il n'y a plus qu'une solution, c'est une bonne destruction. Puisque ce sera la seule possibilité de retrouver après une période de reconstruction, d'élévation nouvelle du taux de profit. Est-ce que c'est une solution, du point de vue de la finance mondiale? Une bonne guerre, c'est une bonne destruction, et c'est la remontée du taux de profit, c'est voilà. Un autre point de vue que le nôtre.
Je ne vous quitte pas, je cherche un stylo.
Alors, en ayant été attentif à votre exposé, les choses sont d'une clarté, j'ai envie de dire, éblouissante, mais tout de suite se pose une question, enfin il y a une question qui vient à l'esprit immédiatement. Comment se fait-il que les peuples supportent cette situation-là? Sans broncher, enfin, c'est une situation meurtrière, on le constate au quotidien autour de nous, jour après jour. Comment arrive-t-on à imaginer que les peuples supportent cette situation-là sans se dresser, sans utiliser les moyens qu'ils ont utilisés à de nombreuses reprises au cours de l'histoire pour paralyser cette machine à détruire phénoménale?
On fait une petite pause.
Je peux poser la mienne,
allez-y.
Ce sera la dernière.
Allez-y.
Pour cette séance. Moi, ce que je voudrais savoir, c'est plutôt que de lutter contre la ratification du pacte budgétaire, pourquoi on ne lutterait pas contre la dette elle-même, qui engendre donc tous nos problèmes? Parce que on discute là, c'est bien gentil, mais quand même en France, il y a 8 millions, plus de 8 millions de personnes qui sont dessous du seuil de pauvreté. Ils ne sont peut-être pas dans cette salle, entendre les parlotes. L'hiver dernier, il y a plus de 3 millions de personnes qui n'ont pas pu se chauffer. Il faut qu'on attende qu'il y ait combien de millions en plus pour qu'on commence à faire quelque chose. Donc, moi, l'origine du problème, c'est la dette. Pourquoi on ne rentre pas dedans, quoi? Quand je dis rentrer, c'est rentrer. Hein, c'est pas accepté. Hein. C'est l'annulation de la dette et point final, quoi. Et puis on remet tout ce qu'on met en charge, là, qui apparemment est le premier poste de dépense du budget de l'État, et bien, réinvestir dans le social et tout ça. Ça ne doit pas être bien compliqué, ça.
Bon, on fait petit le point par rapport à ces dizaines de questions. Alors, bon, je vais reprendre dans l'ordre parce qu'en fait, elles s'enchaînent assez bien. La loi de 1973, d'abord, il y a eu au cours de l'année passée, depuis le moment d'ailleurs où on discute de cette dette publique, il y a eu tout un buzz sur cette loi de 1973, dont sans doute on a grossi l'importance parce que, en fait, quand on regarde de près le texte de 1973, il reprend en l'actualisant les dispositions qui avaient été arrêtées déjà dans la loi de 1936 et amendé insuffisamment à la sortie de la guerre. Et donc en 1973, il y a une nouvelle loi qui n'invente pas l'interdiction d'emprunter auprès de la Banque centrale. Et d'ailleurs, avant 1973, les États pouvaient emprunter ailleurs qu'à la Banque centrale. L'emprunt Pinet, par exemple, dans les années 50. Bon. Quel est le sens de la loi 1973? C'est le contexte dans lequel elle s'inscrit. C'est-à-dire, on est en 1973. 71 est passé. 71, le système monétaire international a volé en éclats. Janvier 73, c'est 9 mois avant le choc pétrolier. Donc, ce n'est pas le choc pétrolier qui dicte la loi de 1973. C'est tout à fait indépendant. En revanche, la loi 1973 s'inscrit dans le contexte de crise naissante du capitalisme. Et déjà, comme le système monétaire international a volé en éclats le 15 août 71, déjà, les grands de ce monde se préparent, et l'ont déjà commencé, à passer dans un système de change flottant, à libéraliser le mouvement des capitaux, etc., et à unifier tous les marchés financiers à l'échelle du monde. Et donc, dans ce contexte, c'est là que la loi de 1973, pour la France, mais a fortiori à une échelle beaucoup plus grande à partir de Maastricht en 92, donc presque 20 ans après, c'est dans ce contexte de libéralisation du monde des capitaux, d'unification des marchés financiers, où les classes dirigeantes commencent à penser qu'il va falloir développer un marché privé des obligations publiques. Un marché privé des obligations publiques. Et dans lequel la libéralisation des marchés financiers va trouver son plein épanouissement. Pour des raisons que j'ai dites rapidement tout à l'heure, à savoir que, sauf catastrophe, les États paient toujours leurs intérêts et remboursent leurs créanciers rubis sur l'ongle. Bon. Et donc, et d'ailleurs, Giscard d'Estaing, dans une intervention ou un document, je ne sais plus lequel, a dit la même chose. C'est-à-dire que oui, on était dans une période où il fallait assurer le développement des marchés financiers unifiés à l'échelle du monde, dans lesquels s'inscrivaient l'Europe et la France à l'époque déjà. Cette interdiction, donc, qui n'était pas aussi draconienne qu'aujourd'hui, mais qui était inscrite sous une autre forme, c'est-à-dire que pour que le trésor public
puisse présenter ses effets, c'est comme ça que c'est libellé dans la loi 73 et de même que dans la loi 36, pour que le trésor public puisse présenter ses effets, c'est-à-dire ses bons hein, du trésor, au guichet de la Banque centrale, il fallait qu'il remplisse un certain nombre de conditions qui n'étaient pas absolues. Il y avait des conditions, mais ce n'était pas une interdiction absolue. L'interdiction absolue va venir véritablement avec le traité de Maastricht et mise en œuvre en 1999 quand la Banque centrale et l'euro sont créés. Donc c'est ça qu'il faut comprendre par rapport à cette loi. Ensuite, deuxième question, le Montebourg. Et bon, je ne vais pas vous faire un long discours sur Montebourg. J'ai pigé le bonhomme l'année dernière, juste à la fête de l'UMA, où on débattait côte à côte. J'ai vite vu que c'était sur la démondialisation à l'époque. Bon, maintenant, il montre son vrai visage. Et s'il vous dit, j'ai noté ce que vous m'avez dit, s'il vous dit que le pacte budgétaire a été changé parce qu'il y a un volet croissance qui a été introduit, ça, c'est un mensonge pur et simple. Pour au moins deux ou trois raisons. Première raison, 120 milliards à l'échelle européenne qui étaient déjà dans les tuyaux, il n'y a rien de plus, il y a quasiment très peu de plus que ce qui était déjà prévu, à l'échelle européenne, c'est ridicule. Et surtout quand on sait que le budget de l'Union européenne ne dépasse pas 1% de toute la richesse produite du PIB européen par an. Donc c'est ridicule. Mais deuxième entourloupe, il ne nous dit jamais une croissance, mais quelle croissance ? Si c'est pour faire croître encore les centrales nucléaires ou les automobiles circulant et les camions circulant sur les autoroutes, bon, à la limite, heureusement qu'il n'y a pas plus, d'une certaine manière. Et puis, la troisième entourloupe, c'est de nous dire que les décisions de la semaine dernière de M. Draghi vont être telles que la Banque centrale va racheter les dettes publiques. Mais vous m'avez bien compris tout à l'heure, j'ai suffisamment expliqué qu'elle va racheter aux banques sur donc ce qu'on appelle le marché secondaire, les titres pourris dont ne voudront plus les banques privées parce que ça ne leur rapporte plus assez, et donc ils seront refilés à la collectivité par le biais de la BCE. Mais là où Montebourg nous ment, c'est quand elle nous fait croire que le rachat sur le marché secondaire équivaut à un achat direct sur le marché primaire, c'est-à-dire au moment où les États émettent leurs bons du trésor, lorsqu'ils lancent leur emprunt, pas une fois que ça a circulé sur tous les marchés financiers et que c'est refilé parce que ce sont des titres qui sont devenus de plus en plus non recouvrables. Donc là, il y a vraiment une entourloupe majeure. L'annonce de M. Draghi ne va strictement rien changer pour les raisons que je vous ai expliquées tout à l'heure, c'est que tout passe et tout reste dans les mains de la finance. Donc la création monétaire ne sera pas destinée à financer directement les investissements publics nécessaires à la transition, mais lorsque vraiment au bout du compte il sera plus possible de faire autrement, la Banque Centrale Européenne rachètera, je vous l'ai dit déjà trois fois, aux banques privées les titres qu'elles ne voudront plus garder dans leur tiroir. Alors il y a une question tout à fait très intéressante aussi, mais celle-là est particulièrement intéressante parce qu'on ne l'aborde pas souvent, et d'ailleurs je ne suis pas un spécialiste. Comment pourrait être l'application du pacte budgétaire aux collectivités locales ? Effectivement, il y a un projet qui est sous le coude ou à moitié sous le coude et qui n'est pas encore sorti nettement. C'est pour ça que je ne pourrais pas vous en parler longuement. Mais vous avez raison de souligner qu'il y a un projet qui se trame d'appliquer le pacte budgétaire, non pas simplement au budget des États, mais au budget des collectivités locales. Alors, c'est déjà le cas indirectement, parce que quand on parle de déficit public, ça englobe le déficit de l'État, le déficit des collectivités locales, donc de toutes les administrations publiques, et des administrations de sécurité sociale, là où il y en a. Mais il pourrait y avoir une action, alors, beaucoup plus délibérée et directe, en interdisant aux collectivités locales la même chose qu'aux États, c'est-à-dire ne pas dépasser 0,5%, par exemple, % de leur budget, en termes de déficit par rapport à quoi ? Alors c'est ça qui est plus compliqué et qui explique peut-être que c'est pas encore bien au point leur truc, c'est que pour l'État on peut dire par rapport au PIB de la nation, mais là on va le dire quoi ? Par rapport au PIB de la commune ? bonjour pour les communes qui n'ont pas beaucoup d'entreprises installées sur place, hein, ou d'administrations installées sur place. Donc, c'est, bon, on ne peut pas vous en dire plus, mais de toute façon, si l'application du pacte budgétaire allait jusqu'à ce niveau-là, bon, on aurait bien la preuve du bulldozer qui vise à tout broyer en termes de maîtrise de la dépense collective. Alors, il y a un truc que Jacqueline a bien fait de me rappeler, dont j'ai oublié de parler, bien que je l'avais inscrit sur ma diapositive. Parmi les nouvelles prérogatives que va s'arroger la Commission européenne, il y a une disposition qui est tout à fait intéressante à relever. Les États qui jusqu'alors, je vais faire une parenthèse, vous vous souvenez peut-être en 2005, les partisans du oui nous disaient « mais non, vous exagérez le danger, les États resteraient maîtres de leur budget ». C'était l'un des arguments des partisans du oui, vous en souvenez peut-être. Et c'est vrai qu'à l'époque, aucun traité européen, et le traité de constitutionnel en projet notamment, et le traité de Lisbonne, ne précisait l'enlèvement de la responsabilité budgétaire des États. Et le pacte budgétaire, et puis toutes les directives qui vont accompagner incessamment sous peu l'application de ce pacte, ont prévu d'obliger les États, lorsqu'ils élaborent leur projet de budget national pour l'année suivante, de soumettre ce projet un semestre avant l'adoption devant le Parlement national. Donc, là, on a vraiment un pas de plus qui est fait dans la dépossession de l'outil principal de politique économique que constitue le budget de l'État. Après la dépossession de l'outil monétaire dont je vous ai parlé tout à l'heure, il y a maintenant un pas de plus pour déposséder les États de leur outil budgétaire dont ils ne seront plus maîtres. D'abord parce qu'ils ont ce pacte à respecter, et ensuite il faudra qu'ils soumettent leur projet de budget à l'approbation de la Commission européenne, qui aura pouvoir d'indiquer, voilà, il faut modifier ceci, il faut modifier cela, avant même que le Parlement national se prononce. Et c'est quand même une innovation, si je peux employer ce mot, majeure dans les processus démocratiques qui, jusqu'à présent, avaient fait des parlements le lieu où il y avait la prérogative de voter, d'adopter le budget de l'État-nation. Et si cette possibilité est enlevée, ou si elle est enlevée indirectement par l'obligation de soumettre le projet à la Commission européenne, vous vous rendez compte de la perte de substance démocratique que ces nouveaux dispositifs préparent. Alors, ensuite, il me reste deux petites questions qui ne sont pas petites. Alors, quelqu'un disait, je crois que c'était une dame là, de ce côté-ci, disait, il n'y a plus de nouveaux marchés dans le monde. On peut dire les choses comme ça, mais en atténuant quand même, je crois, l'affirmation, parce qu'il y a des marchés potentiels que visent tous les grands financiers et capitaines de multinationales, parce que il y a encore d'immenses parties de la population mondiale qui n'a pas accédé au marché de consommation comme en Occident. Alors, leur problème, c'est que ces immenses populations ne sont pas très solvables. Et c'est ça qui les coince. Et c'est pour ça que tout est lié, on a l'habitude de dire, mais là, c'est vraiment la vérité, je crois. Cette question de la crise globale, comme on dit dans notre vocabulaire, ou de crise systémique ou structurelle, enfin bon, tout ça c'est un peu synonyme, qui allie des aspects sociaux, aspects écologiques, politiques, etc., etc., est extrêmement importante à saisir. Pourquoi ? Parce que, vous rappelez le mot qui nous a servi d'introduction avec le programme de l'université citoyenne que vous avez ici, là, faire reculer la frontière. Donc la crise pour le capitalisme mondial est telle, à la fois économique, financière, sociale, écologique, est telle qu'il lui faut reculer la frontière. Quelle frontière ? La frontière de l'espace privatif, de l'espace de la propriété privée. D'où la bataille essentiel que mènent les multinationales pour privatiser le vivant, pour marchandiser les biens naturels, pour marchandiser les connaissances humaines par le dépôt de brevets sur tout ce qui bouge sur la planète, donc faire reculer la frontière de la propriété privée. Et c'est sa seule manière de trouver une nouvelle bouée de sauvetage au système, c'est-à-dire pour restaurer un champ où, pour instaurer et élargir le champ où le capital peut continuer de se valoriser, alors que sur le marché de l'automobile, comme je disais tout à l'heure, ils n'y arrivent plus, ils ne vendent plus leurs bagnoles neuves, ils ne les vendent plus. Il n'y a aucun constructeur automobile au monde, il y en a 10 à peu près, grands constructeurs, qui n'a pas un parc de bagnoles neuves dont il sait quoi faire. Donc, ils n'arrivent pas sur ce plan-là. Donc, il leur faut élargir le champ où ils peuvent revaloriser leurs investissements, et d'où la bataille pour la marchandisation du vivant, je répète, et la privatisation de tout ce qui fait l'objet encore de l'espace collectif, de l'espace commun, de l'espace public, la bataille pour la privatisation de la sécu, pour la bataille de la privatisation des retraites, pour la financiarisation du marché du carbone, enfin bref, tout est tendu pour justement donner un nouvel espace. Alors, il n'y a plus de nouveau marché, oui et non. Voilà comment je réponds à cette question. Et enfin, deux dernières questions, pas simples. Pourquoi les peuples supportent-ils ce bordel? C'est bien notre problème. C'est bien notre problème où nous sommes le plus souvent, pas toujours, mais assez souvent, qu'une minorité agissante et bon, il n'y a que des phases brèves où des masses importantes de population se mobilisent. Mais bon, vous ne pouvez pas prévoir ce qui va se passer. Les révoltes, les révolutions, enfin, en tout cas les mouvements massifs ne sont jamais prévisibles à l'avance. Ça se déclenche quelquefois pour un truc qu'on n'avait jamais prévu. Et on a beau penser stratégie en permanence, on est toujours déjoué par la vie, par l'événement. Donc moi je ne peux pas vous dire ce qui va se passer demain, je ne peux pas vous dire si demain les peuples européens vont cesser de supporter ce qu'ils supportent aujourd'hui, j'en sais strictement rien. Ce que je souhaite, c'est que les mobilisations se développent, comme vous, donc on est là pour ça. Alors reste une dernière question que je crois avoir comprise, mais peut-être que ça nécessitera de la part de son auteur peut-être une précision si je ne réponds pas bien. La lutte contre la dette est primordiale, nous a-t-il dit, faut pas chercher autre chose, et c'est de cette crise de la dette d'où tout vient, tout le bazar vient, toute la crise vient. Je commence par le deuxième aspect de son affirmation, j'ai essayé de vous montrer justement que nos problèmes ne viennent pas de la dette. Nos problèmes viennent de trucs beaucoup plus profonds et qui se trament depuis trois décennies et demie maintenant. La crise de la dite de la dette en étant la traduction locale française, européenne, portugaise, espagnole, italienne. Mais ce n'est pas de là que vient le problème. Ce qui ne veut pas dire que les constituants de cette dette ne sont pas un gros problème. Les intérêts qu'on verse aux créanciers, vous avez parfaitement raison. Mais de mon point de vue, il ne faut pas inverser l'explication. Sinon, on se trompe de combat. Et vous avez tout à fait raison de dire, si demain on pouvait annuler la dette, déjà, la charge d'intérêt, ça m'est en tiré, et les masses d'argent qui étaient destinées autrefois aux créanciers seraient disponibles pour autre chose. Bon, à condition que nous restaurions une fiscalité digne de ce nom. Parce que si aujourd'hui vous supprimez les intérêts, ce qu'on réclame. Je signale que le collectif pour le dit citoyen de la dette publique, dont ATAC et d'autres associations syndicales et partis sont membres, au niveau national et un peu partout en France, c'est leur première volonté. Mettre sur la table d'où vient cette dette et dire bon, cette dette-là, elle est en grande partie illégitime, donc il y a des raisons de la dénoncer. Bon, donc c'est ce que nous réclamons. Ce n'est pas le seul à faire avoir cette proposition, heureusement. C'est pour ça qu'on est là. Mais imaginons, on réussit, on annule une partie ou totalité de la dette, on commence par annuler celle des Grecs. Bon, ils ont donc autant d'intérêts en moins à payer aux créanciers. Mais si dans le même temps vous n'avez pas une réforme fiscale véritable, vous recréez au bout de 10 ans la même dette. Donc, annuler la dette, très bien, Mais il faut accompagner immédiatement cela d'une réforme fiscale qui empêche le gonflement d'une nouvelle dette illégitime. Dernier point, je redis ce que j'ai dit à la fin aussi, le tour de force des dominants et de leurs idéologues économistes, ou de ceux des économistes qui sont leurs idéologues, parce qu'heureusement il n'y a pas que des économistes idéologues, j'espère en tout cas, leur tour de force, ça a été, par le biais de cette affaire de dette publique, de délégitimer la notion même de dette. Or, la notion de dette, je considère qu'elle est essentielle. Et je me suis battu même dans ma table pour, avec quelques autres, mais peu nombreux, pour qu'on réfléchisse à ça. Pourquoi ? Parce que la dette, est d'une part, comme je l'ai dit tout à l'heure, je vais répéter ça en une phrase, est nécessaire pour anticiper l'avenir. Et deuxièmement, il n'y a pas qu'une raison économique à cela. C'est que la dette fait partie de la vie sociale. Et je vais prendre un exemple tout simple. Pourquoi on tient tant à notre système de retraite par répartition et qu'on ne veut absolument pas qu'on nous refourgue un système par capitalisation? C'est parce qu'un système de répartition, le génie de ce système, c'est d'instaurer une dette qui n'a pas de fin. C'est-à-dire que la génération actuelle, elle rembourse, entre guillemets, la dette qu'elle doit à la génération qui l'a élevée, et à son tour, elle anticipe, par le travail qu'elle effectue, la dette que contracte à son égard la génération qui vient. Et donc, il y a la transmission d'une dette sociale, et pas d'une dette purement financière, la transmission d'une dette sociale qui, elle, n'a pas de fin. Et c'est ce qui fait c'est ce qui fait le génie de la monnaie, d'ailleurs. Je vous disais d'ailleurs que la monnaie, c'était à la fois un bien privé et qui permet l'accumulation pour certains et l'appauvrissement des autres, malheureusement, mais c'est aussi un bien collectif. Pourquoi ? Parce que la transmission de cette dette sociale, en prenant l'exemple des retraites, elle se fait via la monnaie. Vous ne payez pas les retraites de vos anciens en nature. Hein ? Les dettes de vos parents, de vos grands-parents, les retraites de vos parents et grands-parents sont payées par la circulation monétaire qui fait qu'une part de la richesse produite aujourd'hui est prélevée sous forme de cotisations sociales qui vont dans les caisses de la Sécu et qui sont immédiatement reversées aux retraités qui sont là. Donc, battons-nous contre la dette et surtout contre la dette qui est illégitime, mais ne tombons pas dans le piège. D'ailleurs, vous rappelez le livre qu'Attac et la Fondation Copernic ont publié l'année dernière, c'était le piège de la dette publique. Moi, je m'étais battu, mais l'éditeur n'a pas voulu, pour qu'on change le titre et qu'on mette le piège du discours sur la dette publique. Parce que ce n'est pas la dette qui est un piège, c'est le discours qui est tenu sur la dette pour légitimer une mauvaise dette, alors qu'il y a toujours une bonne dette à mettre en œuvre.
Vous venez justement de démontrer que par le biais d'une cotisation sociale, on peut financer donc des pensions de retraite, mais aussi de l'assurance maladie et un certain nombre de prestations sociales, donc sans passer par le crédit bancaire. Est-ce que vous pourriez expliquer dans ce cadre-là l'utilité du crédit bancaire, puisque je crois comprendre que la valeur qui est créée dans une économie, elle a qu'une source, finalement, c'est le travail. Et donc, voilà, je voudrais savoir, vous expliquer un petit peu plus cette notion de crédit et son utilité pour l'économie.
Est-ce que vous permettez que je reprenne immédiatement la parole ? Je reprends la parole pour marquer un instant solennel. C'est que la question que vous posez, c'est la question que seuls trois économistes dans toute l'histoire humaine ont comprise. Trois. Marx, Keynes, qui sont très connus bien sûr, et un économiste polonais quasiment inconnu, mais qui est sans doute plus fort que Keynes de mon point de vue, qui s'appelait Michael Kalki. Et tous les trois, avec un vocabulaire différent, et surtout Keynes par rapport à Marx, qui ne pouvait pas le piffrer alors qu'il en a repris l'essentiel sans le dire. Tous les trois ont montré la chose suivante. Et c'est pour ça que l'instinct est solennel, parce que ça va vous demander
un instant, ceux qui font de l'escalade et qui ont fait de l'escalade en montagne vont voir ce, de quoi je veux parler, qui vont demander un petit passage aérien. Mais sur la crête, là, il faut faire attention parce que c'est... bon, alors voilà le passage aérien.
On va s'encorder, oui, voilà, c'est ça.
La corde de la solidarité pour comprendre ce point sur la mer. Je vais raisonner, pour l'instant, avec un schéma ultra simple. Ultra simple, et on va le compliquer dans un instant, mais vous avez vu que la complication, en fait, est d'une simplicité lumineuse. Mais c'est ce qui est toujours le plus simple qui met du temps à être compris. Bon, alors, j'ai fini mes parenthèses, et je vais prendre... Je prends un exemple ultra simplifié. Il n'y a que des entreprises capitalistes privées. C'est un pléonasme. Ce sont capitalistes, ce sont privées, mais c'est pour bien me faire comprendre. Il n'y a que des entreprises capitalistes. Bon, les valeureux entrepreneurs capitalistes disent, oh là là, je suppose qu'il va y avoir un marché intéressant. Je lance un investissement, j'embauche des salariés, donc je lance un investissement, je vais mettre en circulation du pognon, du capital, pour acheter les machines. Et puis je lance des salaires pour embaucher les salariés. Donc la dépense des capitalistes en investissement et en salaire, elle va leur revenir sous forme d'achat de machines et d'achat de biens de consommation. Vous me suivez? Ils ont injecté de la monnaie en commandant des machines et en embauchant des salariés, et les salaires leur reviendront en consommation, de la camelote fabriquée par les salariés d'ailleurs, et reviendra aux fabricants de machines sous forme d'achat de machines. Vous me suivez? Comment le profit à l'échelle de cette économie toute simple pourrait être possible si les entrepreneurs capitalistes, soit qui fabriquent des machines, soit qui fabriquent des biens de consommation, ne font que récupérer les avances qu'ils ont injectées? Ça, c'est la question superbe. Je répète la question. Comment les avances capitalistes pourraient engendrer un profit monétaire si ces avances n'étaient que récupérées? Et si vous voulez comprendre, il faut lire soit Marx, mais c'est un peu long, soit Keynes, c'est moins long, mais c'est ardu, soit Kalecki, c'est pas en français. Bref, la seule réponse possible est celle-ci. Le crédit bancaire anticipe le fait que la valeur qui sera produite par les salariés embauchés, soit en produisant des machines, soit en produisant des biens de consommation, le crédit bancaire anticipe le fait que cette valeur produite sera supérieure justement à ce qui a été lancé sous forme de salaire. Donc le crédit bancaire anticipe la plus-value, au sens de Marx, qui sera produite par les salariés et qui, lorsque les capitalistes vendront leur camelote, se transformera en profit monétaire, parce que le surtravail et la plus-value, ça n'intéresse pas les capitalistes. Ce qui intéresse les capitalistes, c'est l'argent, l'espèce sonnante et trébuchante, qu'ils peuvent obtenir en vendant les machines et les biens de consommation fabriqués par les salariés, par les travailleurs salariés. Et donc, le crédit est essentiel à l'accumulation du capital. Et ça, il n'y a que Marx, et je ne blague pas, il n'y a que Marx, Keynes et Kalecki qui ont compris ça, et qui ont mis des centaines de pages à l'expliquer, bien sûr. Et c'est d'une simplicité enfantine. Mais je peux vous assurer, garantie, j'ai enseigné 40 ans d'économie, j'ai jamais rencontré un livre d'économie, un manuel où ça s'est expliqué. Jamais. Vous ne le trouverez pas. Si vous me demandez où trouver l'explication lumineuse, je vous dirai tout à l'heure, parce qu'il y a un livre qui est paru il y a 2 ans, qui est génial, sur ce moment-là, écrit par un collègue, je vous en parlerai tout à l'heure. Donc, j'ai raisonné sur une économie ultra simple. Il n'y a que des capitalistes, il n'y a que des entreprises capitalistes. Donc, l'accumulation du capital, c'est-à-dire la transformation du surtravail et la plus-value au sens de Marx en profit monétaire, n'est possible que si le crédit bancaire a anticipé la capacité des capitalistes à faire suer le burnous au salaire. C'est-à-dire à produire plus de valeur qu'il ne coûte, et là on retrouve Marx. Compliquons, mais juste, ça va durer 10 secondes, compliquons l'exemple. Il n'y a pas que des entreprises capitalistes, il y a aussi un secteur non marchand. Il y a des travailleurs qui sont employés pour produire du soin dans les hôpitaux publics, il y a des travailleurs qui sont employés pour produire de l'éducation dans les écoles, les lycées, etc., l'université. Bon, c'est un peu compliqué à souhaiter avec plein d'exemples.
Qu'est-ce qui se passe dans ce cas-là? Le crédit, c'est pour ça qu'il nous faut maîtriser la Banque centrale et faire en sorte qu'elle soit prêteur en dernier ressort également pour l'État et les collectivités locales. Le crédit bancaire va aussi anticiper l'existence de besoins collectifs qui ne seront pas payés individuellement par les consommateurs lorsqu'ils achèteront leur bagnole ou leurs ordinateurs, mais qui seront payés collectivement par les impôts et les cotisations sociales. Et donc, si l'État demain veut mettre véritablement en œuvre une transition écologique, comme on le souhaite maintenant, eh bien il faudra des investissements et il faudra du crédit pour cela. Parce que vous ne pouvez pas concevoir l'anticipation de l'avenir sur la seule base de la monnaie qui circule déjà. Si vous voulez un plus, il vous faut anticiper cela par le crédit bancaire. C'est pour ça que la maîtrise de la création monétaire, la maîtrise du crédit, la maîtrise de la Banque centrale, la remise de la Banque centrale européenne sous contrôle citoyen, sous contrôle crédit, est essentielle. C'est la clé de voûte. Et c'est ça qu'ils ne veulent pas lâcher, bien sûr. Et donc, ne vous trompez pas, le crédit c'est génial, à condition qu'il soit dirigé dans la bonne direction. Non pas pour produire de la saloperie, mais pour produire des choses qui soient utiles à la collectivité. Ça c'est essentiel à comprendre. Et je vous le dis, il n'y a que trois auteurs qui nous donnent des outils conceptuels, des outils théoriques. Bien sûr, vous ne trouvez pas l'explication, les exemples que je vous ai donnés, vous ne les trouvez ni chez Marx, ni chez Keynes, ni chez Kaliki, mais vous trouvez les outils conceptuels pour penser ça. Il y a un autre auteur, parce que je ne veux pas non plus faire injure à l'histoire des économistes, il y a un autre auteur qui avait pigé un petit peu cela, deux. Rosa Luxembourg aussi l'avait dit, ça, mais d'une autre manière. Hein. Et puis il y a un autre auteur qui s'appelle Schumpeter, dont vous avez entendu parler, qui avait aussi senti le truc, mais sans, comme il avait une petite aversion pour Marx, il n'avait pas voulu trop fouiller. Il avait aussi senti le truc. Bref, le nombre d'économistes à avoir compris ce truc est très faible. Voilà, je résume ça comme ça. Et alors que c'est un élément essentiel de la compréhension de la légitimité de notre bataille pour la maîtrise de la création monétaire, la maîtrise du crédit, la maîtrise de la dette, donc. Pas la dette actuelle qui résulte de l'accumulation des déficits qui eux-mêmes ne proviennent que des allègements fiscaux pour les riches. Ça, cette dette-là est illégitime. Il faut la combattre. Il n'y a pas aucune ambiguïté là-dessus. Si j'avais pu laisser échapper un mot tout à l'heure, qu'il l'aurait laissé croire, je m'en excuse. Mais là, il n'y a pas du tout d'ambiguïté. En revanche, le principe même du crédit, le principe même de la dette, qu'elle soit purement économique ou qu'elle soit sociale, donc, avec l'exemple que j'ai pris sur les retraites, ce principe même-là, c'est nous qui devons le défendre. Et d'ailleurs, c'est ça leur tour de force de libéraux, c'est qu'ils ont... Je suis venu en train, comme vous l'avez vu, puisque j'étais en retard. Mais comme je voyage beaucoup, j'ai des cartes de grands voyageurs, entre la CD, qui me donnent le droit d'entrer dans les salons voyageurs. Et avant chaque départ, je rate Libé, Les Échos, Le Figaro. Aujourd'hui, je suis arrivé un peu en retard, il n'y avait plus que Le Figaro. J'ai lu Le Figaro en train. Et vous avez un article extraordinaire, je peux vous le montrer, j'ai la carte, c'est pas vieux, c'est Le Figaro aujourd'hui, de Pascal Salet. Pascal Salet, c'est le mini Hayek français, c'est le mini Friedman français, c'est-à-dire le plus ultra-libéral des ultra-libéraux, et qui vous explique exactement le contraire de ce que je suis en train de vous expliquer, c'est-à-dire il faut surtout qu'il n'y ait jamais de crédit qui ne corresponde pas à une épargne préalable. Et la grande différence, le grand clivage qu'il y a dans toute la théorie économique et dans les principes de politique économique, et qui oppose Marx d'un côté, et Marx et Keynes d'un côté, et puis tous les autres néoclassiques et libéraux, et dont Hayek est le plus illustre représentant au XXe siècle, et dont Pascal Salet n'est que une épigone dérisoire. J'ai eu haine contre lui parce qu'il m'a connu une fois. J'ai la haine théorique. Et il vous explique exactement le contraire, que tout crédit doit être d'avoir pour contrepartie une épargne préalable. La notion d'épargne préalable pour financer les investissements est une absurdité. Et ça, c'est le grand point commun entre Marx et Keynes, d'avoir combattu cette idée qui nous vient de Jean-Baptiste C, une autre qualité intellectuelle du début du XIXe siècle, dont on trouve tout, alors dans tous les manuels, vous avez Jean-Baptiste C de l'époque, vous n'avez pas Kaliki, ça. Vous ne pouvez pas qualifier, mais beaucoup Marx, d'ailleurs, un peu Keynes, mais c'est passé de moi. Bref, je bavarde, je laisse
pas le temps. J'espère que j'ai été clair, mais le point était valait le coup.
Tu parles toujours que notre BCE n'est pas une vraie banque centrale. Est-ce qu'il en existe une quelque part dans le monde? Et deuxièmement, c'est sûr que les parlementaires européens vont encore perdre du pouvoir, si tant est qu'ils en ont beaucoup aujourd'hui. Est-ce que éventuellement il y a ce genre de discussion au Parlement européen? Bon, je pense à un des groupes qui doit évidemment être contre, j'imagine. Mais est-ce que quand même ça ne transparaît pas auprès des autres quand même? Parce que à force de leur enlever du pouvoir, peut-être qu'en 2014, ou si c'est reporté, ça ne sera pas tellement la peine d'avoir des élections européennes.
Il continue à être payé.
Je vois dans le coup, je ne sais pas comment vous dites. Pour continuer ce que tu disais, et par rapport à ce qu'une dame a dit, a soumis le problème de l'empauvrissement, puisqu'on a un taux de rentabilité des actionnaires qui est passé de 5 à 15 actuellement, puisqu'on a aussi un taux de crédit qui est relativement faible, puisque en ce moment on peut emprunter à pas beaucoup. Donc, pour appuyer ce que dit la dame, la différence entre le taux de crédit actuel et l'enrichissement, c'est dû à un appauvrissement et une baisse du niveau moyen des gens qui travaillent. Donc, est-ce qu'on ne pourrait pas sensibiliser encore plus les gens sur le fait que, à cause de, ou grâce à, les gens, les derniers rapports de l'INSEE qui est apparu hier, je crois, c'est flagrant. Depuis 2009, on a perdu, on travaille pour de moins en moins gagner d'argent. Donc, est-ce qu'on ne pourrait pas appuyer cette campagne sur ça, quoi. Les gens, vous travaillez, mais vous vous appauvrissez en même temps, quoi. Oui, quand ils travaillent.
On va peut-être en prendre les dernières questions. Peut-être la dernière.
C'est pas la dernière parce que j'ai deux questions. La première, c'est il y a 25 pays qui ont accepté le pacte budgétaire et qui doivent le faire ratifier soit par voie parlementaire, soit par référendum. Sur ces 25, si 12 de ces pays l'acceptent, ce sera accepté au niveau européen. C'est-à-dire que moins de 50% des pays signataires l'acceptent et ce sera appliqué pour l'ensemble des pays avec une majorité qui ne l'ont pas accepté. Et la deuxième chose, c'est sur les 0,5% de déficit. Jusqu'à présent, c'était 3, personne n'y arrivait. Donc on pense qu'avec 0,5, on y arrivera encore moins, y compris pour les pays pilotes comme l'Allemagne et la France, qui sont aux alentours de 5%. C'est-à-dire que 0,5, on pense qu'on n'y arrivera pas, et avec les sanctions qui sont prévues au niveau européen, c'est-à-dire que tous les pays, pratiquement, vont être sanctionnés.
Bonsoir, je voudrais aborder ici un peu la question de création monétaire. Dans le cadre d'une des projections où on parle des alternatives possibles, et particulièrement la socialisation des banques. Parce que dans tous les discours, on parle de la BCE, des banques centrales, l'interdiction de prêter aux États, par exemple. Mais est-ce que techniquement, je ne parle pas idéologiquement, au moins idéologiquement ou juridiquement, mais techniquement, est-ce que c'est imaginable que des grandes collectivités comme les régions ou des grandes villes créent leur propre banque de dépôt avec toute la possibilité de création monétaire que ça se pose, et qu'ils ont leur propre banque éventuellement qui peut financer leur activité par la création monétaire basée sur le dépôt qu'ils déposent et qui sont multipliés de multiples de 10 par rapport à la quantité qu'ils ont le droit de créer de monnaie. Merci.
Oui, vous avez parlé de la réduction du déficit 0,5%, mais il y a une autre disposition importante dont il faut parler, c'est la réduction de la dette publique globalement qui est prévue dans le traité et qui doit être ramenée de 90% à 60%, et à raison de 1/20 par année. Et ça, ça va drôlement alourdir la note que vous avez déjà présentée.
Oui, moi c'est peut-être un... Alors j'avais cru comprendre que la Banque fédérale américaine et la Banque d'Angleterre n'avaient pas la même position que la BCE et qu'au contraire elles injectaient. Donc je trouvais que c'était un point... Enfin déjà, est-ce que vous confirmez et est-ce que vous pouvez l'expliquer? Et troisièmement, je pense que ça peut être un argument, si c'est le cas, ça, c'est un argument qui peut être assez important.
Ouais. Pas d'autres questions? Où est-ce qu'on en est à l'heure actuelle pour les ratifications par les différents États?
Bon, on y va? Alors, bon, je vais regrouper certaines questions. J'ai oublié de dire effectivement, et vous avez raison de le signaler, que dans les dispositions du pacte budgétaire, il est prévu de ramener le déficit à 0,5%, structurel à 0,5%, et de ramener la dette publique à un niveau qui la fasse à rentrer dans les clous déjà prévus par Maastricht et le traité de Lisbonne. À raison de 20e par an, c'est-à-dire de 5%, pour ramener de 5 points de pourcentage, pour ramener de 80-90 en 5, 6, 7 ou 10 ans maximum à 60. Tout à fait d'accord, je voulais le dire, merci de le préciser. Alors, il y a une question là pour qu'on insiste davantage pour gagner en audience auprès des citoyens sur le fait que tous ces dispositifs de réforme des traités européens et le nouveau traité en particulier vont aggraver la situation de la plupart et vont travailler toujours autant et gagner moins, en tout cas voir leur pouvoir d'achat s'éroder. Bon, c'est pas un point que l'on met de côté, que l'on sous-estime, et ce que nous disons est tout à fait lié aux campagnes qu'on a pu mener les années précédentes sur la protection sociale qui fait partie du niveau de vie, qualitativement parlant, les retraites, l'assurance maladie, etc. etc. Bon, tout ça, ça avait, et la réduction des inégalités aussi, tout ça fait partie du même combat, du même que la bataille pour la réduction du temps du travail, qui est toujours le fil conducteur finalement de tous les combats sociaux depuis deux siècles. Donc si ce soir ou dans les occasions nous avons à parler du pacte budgétaire, donc cet aspect moins mis en avant, c'est pas parce qu'il est considéré comme secondaire, mais parce que, bon, en deux heures de temps, on ne peut pas trop aborder la totalité du sujet. Alors, quelqu'un a fait remarquer, et ça part du bon sens, que déjà on n'a pas été capable de respecter la barrière de 3% de déficit par rapport au PIB, et ça serait quand même miraculeux qu'on arrive à respecter une barrière encore plus faible de 0,5. C'est une remarque tout à fait de bon sens. À ceci près, je pense là vous l'avoir déjà dit tout à l'heure, que ce n'est pas la même notion. Les 3% se rapportent à un truc et les 0,5 à un autre truc, qui ne sont pas la même chose. Les 3% se rapportent au déficit qu'on voit dans le budget qui est voté chaque année au moment de la loi de finances, pas à l'automne, enfin au Parlement. Le déficit dit structurel procède d'un calcul, d'ailleurs dont personne ne connaît véritablement le bien fondé. Et d'ailleurs, il y a des estimations très variables de ce calcul-là, de ce déficit structurel. C'est le principe en est le suivant, c'est ce que je disais tout à l'heure, c'est-à-dire qu'on va essayer d'estimer d'abord l'aggravation du déficit qui est due au fait qu'on passe par une mauvaise période, une mauvaise conjoncture. Bon, mettons, ça sera 2 ou 3 points de pourcent de déficit supplémentaire à cause de la récession. Reste un déficit appelé structurel. C'est leur jargon, hein, appelé structurel, parce qu'il renvoie à la structure des dépenses et de, et de,
et de l'organisation de la protection sociale, des services publics, etc. Donc c'est ça qu'il faut réduire. Ils ne sont pas assez fous, on va le dire comme ça si vous voulez, ils ne sont pas assez fous, malgré leur folie, ils ne sont pas assez fous pour imaginer que si on leur enlève la possibilité d'avoir un déficit parce qu'il y a une mauvaise conjoncture, de les pénaliser en plus. Donc ils ne sont pas suffisamment fous, mais ils sont suffisamment cyniques pour obliger à comprimer les dépenses qui font le fond de l'organisation sociale et politique, à savoir la structure, l'organisation des services publics, la structure, l'organisation de la protection sociale, la santé, la maladie, l'éducation publique, la recherche, etc. C'est ça, c'est à ça qu'ils veulent toucher. Et notamment en facilitant la chose par le biais de ce qu'ils appellent l'abaissement du coût du travail. Si on diminue les cotisations sociales pour réduire les dépenses sociales, et bien du même coup, vous allez réduire la contribution des entreprises à ce pacte-là, ce pacte social, et donc vous allez, entre guillemets, soi-disant, augmenter la compétitivité des dites entreprises. Ce qui est une vue de l'esprit, parce que la compétitivité se joue sur bien d'autres facteurs également que le simple coût du travail. D'ailleurs, à propos, pour le dire à Mme Parizeau, hein, si vous téléphonez la prochaine fois où elle est invitée à France Inter, demandez-lui si le coût du capital, ça ne rentre pas dans les prix des marchandises achetées. Posez-lui cette question. Demandez-lui si les dividendes ne sont pas inclus dans les prix. Demandez-lui. On verra bien ce qu'elle nous répond. Ça, je veux dire, j'étais couillon, j'aurais pu lui téléphoner. Mais ils n'auraient pas pris ma question. Bon, alors voyons, c'est que j'en étais. J'en étais. Oui, donc la diminution du déficit dit structurel, c'est-à-dire ce qui touche au fond de l'organisation politique d'une société, c'est ça qu'ils visent. Et je vous dis, pour eux, c'est plus important que de jouer sur le déficit qui est dû au fait que on est dans une mauvaise passe économique. Alors, ensuite, il y a une question sur la démocratie, président, à la ratification de ce pacte budgétaire. Alors, ce pacte budgétaire ne doit pas être ratifié par 12 pays sur 27. Il doit être ratifié par 12 des 17 composants de la zone euro. Ce n'est pas les 12 sur 27, c'est les 12 sur les 17. Ensuite, il reste, bien sûr, les deux questions, Maus. Sur les banques centrales, la création monétaire. Je les regroupe. Est-ce qu'il existe de vraies banques centrales dans le monde au sens où je l'ai défini tout à l'heure, c'est-à-dire qu'un vrai prêteur en dernier ressort, pas simplement pour les acteurs privés, mais aussi pour les acteurs publics, collectifs? Pas vraiment. Pas vraiment. Mais, quelqu'un l'a signalé dans une autre question, parmi les grands pays du monde capitaliste, la réserve fédérale, c'est-à-dire la banque centrale des États-Unis et la banque d'Angleterre, la Grande-Bretagne n'étant pas dans la zone euro, vous le savez, la livre sterling existant toujours. Donc là, ces deux banques centrales qui sont, avec la banque centrale européenne, la banque du Japon et la banque centrale suisse, c'est les cinq grandes banques centrales du monde. Il y en a cinq, réserve fédérale, américaine, banque d'Angleterre, banque centrale européenne, banque du Japon et banque centrale suisse. C'est d'ailleurs les cinq monnaies principales du monde, le dollar, la livre sterling, l'euro, le yen et le franc suisse. Et j'oubliais, parce que c'est la valeur montante, la banque centrale de Chine avec le yen. Mais le yen n'étant pas encore une monnaie internationale, très peu. En revanche, la banque centrale de Chine commence à avoir les épaules larges. Qu'est-ce que j'ai dit? Le yen, merci. Heureusement que vous êtes là, parce que le nombre de conneries que je dis à une soirée. Oui, est-ce qu'il existe une... Que font ces banques? Alors, la Banque Centrale Américaine, la Réserve Fédérale et la Banque d'Angleterre ont une politique monétaire un peu différente de la Banque Centrale Européenne. C'est-à-dire que ces deux banques centrales n'hésitent pas à injecter de la monnaie quand l'État fédéral américain ou l'État... Le gouvernement anglais dit, ça va pas, le crédit est gelé, il faut relancer l'économie, donc lançons des crédits dans les circuits. Est-ce que ça réussit? Ça évite une trop grosse cata, et les États-Unis sont, de ce point de vue-là, assez comment dire, pour pas, pour que ce soit être bien compris, assez performant n'est pas le bon mot, c'est trop fort, mais assez habile, merci, assez habile, merci, je sais pas qui l'a dit, mais c'est le bon adjectif, assez habile pour éviter les trop grosses pannes économiques. Et donc, ils sont capables d'injecter des centaines de milliards de dollars du jour au lendemain pour faire que la croissance ne s'arrête pas, etc. Et donc, qu'on évite la baisse des rentrées fiscales, donc aggraver le déficit budgétaire, etc. La Banque d'Angleterre fait pareil. Mais il y a deux mais à cette habileté. Deux bémols importants, surtout le second, terminé par lui. Le premier bémol, c'est que c'est pas très efficace parce que c'est que j'arrive en syllabe. C'est-à-dire qu'on relance un petit peu, mais ça retombe, ça repart, ça retombe. Rien n'est résolu fondamentalement. Et puis, deuxième défaut, deuxième faille du dispositif, c'est que jamais on interroge le contenu de la relance qu'on veut faire. Et donc, c'est toute la question du mode de développement que l'on veut développer. Ça rejoint ce que nous disions tout à l'heure. Donc, est-ce qu'il existe des banques, de vraies banques centrales dans le monde ? Pas vraiment. Voilà ma réponse, pas vraiment, même si la banque centrale américaine a une politique qui est moins stupide que la banque centrale européenne, mais pas plus novatrice que la nôtre en matière de transition vers une autre, vers d'autres politiques sociales, économiques, écologiques. Et d'ailleurs, la crise des subprimes a démarré aux États-Unis, c'est pas un hasard, c'est parce que la Banque centrale américaine avait refinancé en pagaille les banques institutions financières privées pour que celles-ci accordent du crédit massivement à des ménages modestes dont ils savaient très bien qu'ils ne pourraient jamais les rembourser. Bon. Donc la Banque centrale américaine n'est pas véritablement le nec plus ultra de ce que nous souhaiterions. Mais reste la dernière question qui est la plus compliquée et sur laquelle on, tous les auditoires reviennent à chaque fois, et je comprends parfaitement que cette question revienne de manière lancinante, c'est parce que c'est très compliqué. En tout cas, ça, c'est pas très compliqué, mais ça heurte le sens immédiat, ça heurte le sens pratique que l'on pourrait deviner intuitivement. D'où sort la création monétaire ? Qui la commande ? Qui la contrôle ? D'où sortent ces centaines de milliards que la Réserve fédérale injecte tous les quatre matins dans les circuits ? D'où sort le pognon avec lequel la Banque Centrale Européenne va racheter les titres pourris italiens, grecs, espagnols, portugais, peut-être même français ? D'où elle sort cet argent ? Elle sort de nulle part. Elle le crée. Elle ne fait pas marcher, selon l'expression consacrée, la planche à billets. La Banque Centrale Européenne ne va pas acheter avec des billets les créances pourries aux banques privées. Ah, qu'est-ce qu'elle va faire ? Elle va créditer, c'est-à-dire écrire des nombres avec beaucoup de zéros, sur le compte que chaque banque possède à la Banque Centrale. Vous avez un compte à la BNP, au Crédit Agricole, ou à la Caisse d'Épargne. Les banques, toutes ces banques-là, elles ont un compte à la Banque Centrale. Vous n'avez pas de compte à la Banque Centrale. Moi non plus. Rassurez-vous. On n'a pas de compte. Les entreprises privées et les particuliers n'ont pas de compte à la Banque Centrale. Autrefois, il y avait des exceptions. Maintenant, ce n'est plus le cas. Il n'y a pas d'exception. Il n'y a que les banques et les institutions financières ayant statut bancaire qui peuvent se refinancer auprès de la Banque Centrale et y apporter à l'escompte, comme on disait autrefois, des effets commerciaux, mais surtout maintenant, dans la période de crise actuelle, des bons publics. La Banque Centrale, donc, crédite les comptes des banques inscrits dans ses guichets. C'est ça la création monétaire. Et le tour de passe-passe de la BCE, c'est de nous annoncer la semaine dernière que, bien sûr, ça équivaut à une injection de monnaie. Donc les banques vont avoir plus de monnaie issue de la Banque Centrale à leur disposition, qui leur facilitera ensuite les crédits qu'elles-mêmes elles pourront accorder aux entreprises et à vous, particuliers, aux ménages. Mais la Banque Centrale, pour toujours conserver ce dogme, surtout pas trop de hausse des prix, si on met trop de crédit en circulation pour l'économie productive, va immédiatement retirer l'équivalent de monnaie sous forme de vente de titres privés, c'est-à-dire de sortie de sa caisse des titres privés qu'elle possédait, qu'elle avait déjà dans cette caisse. C'est ça la création monétaire. Et ce mécanisme de création par le biais du crédit, ce mécanisme-là, il est similaire au niveau des banques ordinaires. C'est-à-dire que vous, quand vous allez demander un prêt parce que vous voulez acheter l'appartement ou renouveler la bagnole ou que sais-je, ou une entreprise lorsqu'elle veut renouveler ses équipements matériels, ordinateurs, bâtiments, etc., qu'est-ce qu'elle fait? Elle va à la banque, et si la banque, sur votre bonne mine ou sur sa bonne mine, dit « oui, je vous prête », qu'est-ce qu'elle fait? Elle ne vous donne pas une valise de billets avec laquelle vous repartez. Elle crédite votre compte du montant accordé. Mais qu'est-ce que vous allez faire de cet argent? Vous allez immédiatement payer vos fournisseurs si vous êtes une entreprise, ou payer votre vendeur d'appartement si vous achetez l'appartement, ou le concessionnaire auto si vous achetez l'auto. Et ce concessionnaire auto que vous payez en lui signant un chèque ou avec la carte bancaire, il n'est pas nécessairement à la même banque que vous. Qu'est-ce qu'il fait? Il porte aussitôt votre chèque à sa banque, et cette banque, elle a un chèque tiré sur l'autre banque. Et l'autre banque, elle en a d'autres aussi tirés sur la première. Et donc, chaque jour, les banques soldent les ordres de virement de compte à compte qu'elles ont à leur disposition. Et en quelle monnaie sont-elles obligées de solder ces ordres de virement réciproques? Pas dans leur propre monnaie. La BNP ne peut pas solder sa dette vis-à-vis du crédit agricole en faisant un crédit BNP. Et réciproquement, le crédit agricole ne peut pas payer en monnaie crédit agricole la BNP. Donc elles sont obligées d'avoir une banque centrale au-dessus d'elles. Et c'est le phénomène qu'on appelle de la compensation, et cette compensation ne peut être effectuée qu'en monnaie de banque centrale, c'est-à-dire par un virement de compte à compte au sein de la banque centrale. Et votre question était, est-ce qu'on ne pourrait pas faire pareil au niveau régional? Si vous créez des banques régionales, très bien, si vous créez des banques régionales pour développer l'activité qui est utile, c'est parfait. Mais ça n'empêche pas qu'il faut une banque centrale au-dessus. Soit la banque centrale de tout le pays, de toute la communauté européenne, soit la banque centrale de votre région. Mais bon, on s'achemine pas, je ne crois pas, et je ne suis pas persuadé que ça soit acceptable, vers une autonomisation des régions avec une banque centrale par région. Qu'il y ait des banques régionales pour développer l'activité des jeunes, ça c'est important. Mais ça n'empêchera pas la nécessité, ça n'enlèvera pas la nécessité qu'il y ait une banque centrale au-dessus. Ça c'est le principe même du système bancaire. Et d'ailleurs, c'est pas souvent que je fais ça, mais vous étiez tellement captivés ou motivés, je ne sais pas, que je vous ai cité un grand nombre de noms d'économistes. J'en ai cité pas mal ce soir, je ne fais pas ça d'habitude. Et il y en a un dont je vous ai cité le nom, c'est Hayek, qui est sans doute l'un des plus grands penseurs économiques, mais pas qu'économiques, philosophiques, juristes, libéraux du XXe siècle. Et lui, il avait poussé la logique, sa logique libérale, jusqu'au bout. Il disait: supprimons les banques centrales. C'était ça la grande idée de Hayek. Supprimons les banques centrales. Parce que lui, super intelligent qu'il était, il avait pigé le truc. Si on veut développer la concurrence libre et non faussée, il avait déjà anticipé même l'expression quasiment, si on veut développer la concurrence totale, il faut enlever les banques centrales et laisser les banques ordinaires, par le jeu de la concurrence, se débrouiller entre elles, et les petites mangeront, les grosses mangeront les petites, et tout se portera, tout le monde se portera mieux. Et donc lui, il a dépigé le truc. Mais comment dire ça? C'est d'un point de logique imparable, mais c'est humainement impossible à réaliser. Parce que si c'était réalisé, ça serait la mort des sociétés, mais pas simplement de l'économie, ce serait la mort des sociétés. Et ça, un autre grand penseur, ce soir, vraiment, c'est la bombe. Karl Polanyi, anthropologue, de l'entre-deux-guerres aussi, l'entre-deux-guerres est fertile. Keynes, Kalecki, Polanyi, c'est la même génération. Il a vigé le truc à l'envers. Si vous supprimez toutes les institutions qui font que finalement les sociétés tiennent, vaille que vaille, cas un cas, si vous les supprimez, les sociétés meurent. Et il donnait trois exemples. Si vous faites en sorte de transformer le travail totalement en marchandise, si vous faites en sorte de transformer la terre totalement en marchandise, les enclosures, c'est ça, les fameuses enclosures. L'accaparement actuel des terres africaines, c'est les nouvelles enclosures sur le sol africain. Donc, Polanyi disait, si vous si vous marchandisez totalement le travail, si vous marchandisez totalement la terre, et si vous marchandisez totalement la monnaie, projet Hayek, alors les sociétés mourront. Et il avait, c'est lui qui a raison, c'est pas Hayek. C'est ça la création monétaire. Il faut une banque centrale, il faut de la création monétaire pour anticiper l'avenir. Pas pour anticiper la spéculation, mais pour anticiper l'avenir. Pour assurer la maîtrise de cette création monétaire, il faut une banque centrale qui soit contrôlée démocratiquement. Et c'est ça la faille de la construction économique et monétaire de l'Europe, c'est d'avoir institué un truc. Allez, je vais dire ça de cette manière, même s'il faudrait que je démonise ensuite. La construction de l'Union économique européenne, économique monétaire, c'est, si vous voulez, c'est du... C'est du Hayek en miniature. C'est ce qu'on appelle en jargon spécialisé l'application de l'ordolibéralisme. C'est-à-dire l'une des branches de ce qu'on appelle, nous, de manière générale, le néolibéralisme, c'est l'ordolibéralisme qui a été pensé dans les années 30-40 et dont la reconstruction de l'Allemagne après la guerre s'est inspirée, qui consiste non pas à supprimer l'État, mais à mettre un État super fort, mais pour imposer les règles de la rentabilité et de la concurrence. C'est ça la supériorité de l'ordolibéralisme par rapport à la vision complètement évanescente de Hayek, la supériorité de l'ordolibéralisme, et c'est peut-être pour ça aussi que c'est pas peut-être innocent que l'Allemagne soit le pays moteur et despotiquement moteur aujourd'hui, c'est parce que c'est eux qui ont mis le plus en application cette idée qu'il faut surtout pas supprimer l'État. Et on a eu trop tendance au sein de l'altermondialisme, surtout au début, il y a 15 ans, quand on s'est créé à Attaque, on a eu trop tendance à dire ah ben, le marché, le tout marché, c'est la disparition de l'État. Pas du tout, pas du tout. La mondialisation capitaliste, ce n'est pas la disparition des États, c'est la mise des États au service quasiment exclusif du marché. C'est tout à fait différent. Donc, il y a de quoi faire une soirée.
Merci beaucoup, Jean-Marie.